Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Vous dites dans votre livre « Détester le vacarme politique et les phénomènes de meute ». Je crois que vous avez été servi ces derniers jours avec cette énième controverse sur le port du voile. Que retenez-vous de ce débat? Où vous situez-vous?
Je me situe dans le camp de ceux qui sont résolument laïcs, qui n'entendent pas tourner la laïcité contre une religion en particulier. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est un principe qui conduit l'État à se tenir à distance de toutes les religions. Dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourra l'exercer en toute liberté, qu'aucune forme de prosélytisme agressif ne viendra heurter le vivre ensemble, la République veillant à tout cela. C'est ça ma conception de la laïcité, c'est la loi de 1905.
Ce sont les grands principes, Bernard Cazeneuve, mais après il y a la réalité du terrain et de la société d'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, vous estimez que le port du voile n'est pas souhaitable pour la société française, qu'il ne correspond pas à nos valeurs républicaines, celles notamment de l'égalité homme-femme? Ou est-ce que vous pensez qu'un ministre, qu'un responsable public ne devrait pas dire ça?
Mais la loi dit ce qui doit être dit et respecté.
Et
la loi de 1905, dans ses principes, la loi de 2004, dans son texte, indique qu'il ne peut y avoir aucun signe religieux là où l'on apprend, notamment à l'école. Et je suis, moi, personnellement, très attaché à ce que ces principes soient respectés avec la plus grande fermeté. Lorsqu'on rentre dans l'école, précisément parce que l'école a la singularité que j'indiquais tout à l'heure, quant à l'apprentissage de la connaissance, on laisse tous les signes religieux qui peuvent vous distinguer à la porte de l'école, parce que à l'école, la religion n'a pas sa place. Et donc ces principes doivent être respectés. De la même manière, nous avons adopté en 2010 une loi sur le voile intégral qui est très claire dans ses principes, dans ses fondements, et qui doit être rigoureusement, là aussi, respectée. Voilà, la loi dit les choses très clairement, il n'y a pas besoin de faire des polémiques, il faut la faire respecter, faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre rigoureusement à l'intérieur de la République. On ne doit pas instrumentaliser cette question pour en faire un sujet de division, parce que la laïcité, ce n'est pas un sujet de division, c'est une valeur de rassemblement, c'est à travers la laïcité qu'on crée les conditions du vivre ensemble. Et je vois bien qu'il y a des représentants, notamment de la religion musulmane, qui la dévoient, qui cherchent à enfermer les musulmans dans le communautarisme. Un certain nombre d'entre eux sombrent dans l'islamisme, c'est-à-dire dans un positionnement extraordinairement agressif et violent à l'égard de la République et de ses valeurs. Face à ces comportements, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Et je vois aussi des acteurs politiques qui souhaitent que la société soit mise sous tension, que les divisions soient partout entretenues, et qui préemptent le thème de la laïcité pour le tourner contre les musulmans et faire en sorte, sous couvert de dénonciation de l'islamisme, que la société française se fracture. Eh bien moi, je pense que si l'on est résolument républicain et laïque, on doit éviter de tomber dans ces pièges et que l'on n'instrumentalise pas les plus belles notions de la République, qui sont des notions destinées à faire en sorte qu'on se rassemble pour en faire des valeurs de fragmentation et de division.
Vous avez passé 32 mois au ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Votre livre « À l'épreuve de la violence » contient le récit détaillé de cette terrible année 2015. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, le Bataclan, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, Copenhague, Villejuif, Saint-Quentin-Falavier, le Thalys, Amsterdam-Paris. Et vous savez, vous le dites, que la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par des mesures sécuritaires, qu'elle passe aussi par le combat contre l'islam politique, contre l'islamisme qui en est le carburant. Or, ce combat-là, il est souvent contesté par une partie de la gauche prompte à dénoncer l'islamophobie ou la haine anti-musulman. Est-ce que la fracture, elle n'est pas aussi entre ces deux gauches? Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour un homme de gouvernement comme vous?
Je ne l'ai pas ressenti, même si je suis conscient que cette fracture existe. Lorsque il m'arrivait de dire, je le disais souvent, parce que j'étais précisément préoccupé de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme se fasse dans le respect des principes de l'État de droit, et qu'en même temps nous soyons sans concession à l'égard de l'islamisme, que nous n'ayons jamais la main qui tremble à l'égard de ceux qui dévoyaient une religion pour frapper la République au cœur et semer partout la terreur. Donc à ce moment-là, il y a eu effectivement une partie de la gauche qui, lorsque l'État se dotait des moyens prévus par l'État de droit lui-même pour réagir face à cette violence, parler d'islamophobie ou stigmatiser l'état d'urgence comme une sortie de l'état de droit, alors qu'il n'était rien d'autre qu'un instrument de l'état de droit pour protéger la République contre une violence extrême. Même si, bien entendu, il m'est arrivé comme ministre de l'Intérieur de devoir prendre des dispositions pour préciser les mesures de l'état d'urgence de manière à ce qu'elles-mêmes ne soient pas dévoyées. Donc oui, cela existe et je pense que cette fracture-là, il faut la surmonter. Il faut la surmonter dans l'affirmation très ferme des valeurs républicaines. Et il faut aussi l'affirmer dans la volonté de la République de prendre dans ses bras tous ses enfants, et notamment les musulmans de France, qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, victimes des attentats. Moi, je ne peux pas oublier, comme ministre de l'Intérieur, la figure et le symbole d'Ahmed Merabé, policier portant l'uniforme français, de la police française, qui se retrouve dans la police parce qu'il est amoureux des principes de la République et des valeurs de la République.
Tué
au sortir de Charlie par des islamistes qui sont emportés par la haine de l'autre, y compris de leurs prochains musulmans. Il y a des musulmans qui sont tombés aussi au moment de l'attentat de Nice, au moment de l'attentat du Bataclan. Et puis il y a tous les musulmans de France qui sont dans une conception de leur religion très respectueuse des principes de la République et qui le disent, et qui sont dans la honte du comportement de ceux qui, dans le dévoiement de leur religion, cherchent à semer partout la violence, la division et la terreur. Et ces musulmans, je les ai toujours appelés, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, à faire entendre davantage leur voix, à s'exprimer davantage, parce qu'ils sont aussi la fierté de la République dans l'attachement qu'ils ont aux valeurs du vivre ensemble et aux valeurs républicaines qui constituent notre patrimoine commun. Donc, être aujourd'hui ardemment républicain et être ardemment de gauche dans la volonté de voir la République lutter contre l'islamisme par les moyens de l'état de droit et non pas dans la sortie de l'état de droit, moi je n'ai jamais, là non plus, fait la moindre concession à ceux qui demandaient qu'on mette toutes les fichiers S en rétention, parce que je voyais bien ce que cela représentait d'absurdité, de démagogie et de mesures sans effet. Mais dans le même temps, je pense qu'il faut être extrêmement ferme à l'égard de l'islamisme, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à fermer des mosquées dans lesquelles on appelait et provoquait au terrorisme ou à l'antisémitisme. Je n'ai pas hésité à expulser des imams qui appelaient et provoquaient à l'antisémitisme ou au terrorisme. Et j'ai toujours entretenu avec les musulmans de France un dialogue qui était respectueux et exigeant, parce qu'un républicain doit être aussi capable, lorsque l'heure est grave, de rappeler à chacun ses responsabilités dans le respect des uns et des autres.
Bernard Cazeneuve, invité d'Europe 1 ce matin. On vous retrouve dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, auteur d'À l'épreuve de la violence au seuil. Bernard Cazeneuve, vous disiez il y a un instant qu'on n'entendait pas, on n'écoutait pas assez les musulmans. Est-ce que l'exécutif, le gouvernement, les autorités parlent suffisamment aux musulmans?
Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il fallait que les musulmans prennent davantage la parole dans la République pour dire la conception qu'ils en avaient, l'attachement qui était le leur au principe de la République, non pas parce que j'ai un doute sur cet attachement, mais parce que dans le contexte particulier où nous nous trouvons, nous avons besoin d'entendre les musulmans dire leur attachement à la République. Ils l'ont dit souvent, mais il y a des événements et des tentatives de fragmentation de la société française, d'opposition des Français les uns aux autres, qui justifient que tous les républicains, et notamment les musulmans parmi les républicains, qui sont attachés aux valeurs de la République, puissent ensemble faire entendre une voix qui dise finalement au pays, il y a des épreuves, ces épreuves seront peut-être longues, mais nous ne laisserons aucune idéologie de haine fracturer la société française, parce que précisément ce qui nous rassemble, c'est-à-dire les valeurs républicaines, est beaucoup plus fort que les idéologies qui cherchent à nous diviser. Donc moi, je les appelle effectivement à s'exprimer. Et pour que cette expression puisse avoir lieu en permanence, à chaque fois que des événements se produisent, il faut aussi que le dialogue avec les musulmans soit constant. Et il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de la part de ceux qui sont à la tête de l'État sur la stratégie qui est la leur. Si l'on veut que les Français fassent bloc, et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que le président de la République avait raison de le vouloir et de le dire, il ne faut pas qu'au sein du gouvernement, il y ait des débats sur la question de la laïcité qui donnent le sentiment de la confusion. Les Français ne peuvent faire bloc que dès lors qu'il y a une clarté sur les valeurs, la manière dont on les énonce, et la conception qu'on en a au regard de ce qu'est la tradition républicaine française et les textes qui la font. Donc chacun doit être responsable.
Protéger la République, protéger les Français aussi comme ministre de l'Intérieur et protéger l'unité nationale. On retrouve toutes ces expressions au fil de votre plume dans votre livre, Bernard Cazeneuve.
Parce que tout cela, c'est la République. La République, dans la tradition républicaine française, c'est d'ailleurs un principe qui est reconnu constitutionnellement, c'est un principe d'unité et d'indivisibilité.
Oui, mais est-ce que cette République-là, elle n'a pas cédé la place depuis plusieurs années à une juxtaposition d'individus, à une collection de revendications identitaires ou communautaires ? Mais est-ce qu'il est possible de revenir en arrière ?
Mais je pense qu'effectivement, il y a eu pour toute une raison qui tiennent à des démissions successives, des petites lâchetés, des petites concessions qui n'avaient pas lieu d'être.
Au niveau local ou au niveau gouvernemental ?
Mais à tous les niveaux, y compris parfois chez ceux qui pensent, qui prennent la plume pour dire ce à quoi ils croient, il y a eu toute une série d'abandons, de manquements qui ont abîmé la République.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense que... lorsque on est élu d'une collectivité locale et qu'on négocie avec des groupes qui sont enfermés dans le communautarisme pour être garanti d'être réélu, ça a existé. Ce n'est pas à la République que l'on fait du bien. Lorsque on tourne la notion de laïcité contre les seuls musulmans en engendrant des débats qui n'ont pas lieu d'être sur les menus qui doivent prévaloir dans les cantines scolaires, on ne fait pas de bien à la République. Et lorsque on n'accepte pas de faire respecter de façon extrêmement rigoureuse les lois sur les signes religieux à l'école, en faisant des concessions pour des raisons qui tiennent à des contextes locaux ou à des situations singulières, on ne fait pas de bien à la République. Donc chacun doit faire son examen de conscience. Et la République, c'est à la fois une fermeté qui doit s'exprimer face à des principes, et c'est à la fois une responsabilité qui doit prévaloir quant aux concepts qu'on convoque pour ne pas les dévoyer, et encore une fois, ne pas en faire des concepts de division. C'est une ascèse, la République. C'est une exigence.
C'est une voie étroite aussi, le contexte actuellement.
Mais de toutes les façons, tout ce qui est de nature à rassembler et tout ce qui est de nature à faire société, et dans un monde dans lequel on convoque volontiers les instincts, dans un monde dans lequel la violence prend volontiers le pas, un chemin de crête qu'il est difficile de tenir. Et c'est un chemin d'ailleurs qui laisse peu de place à la popularité pour ceux qui cherchent à se tenir droit sur ce chemin, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période où les emportements, les excès, les phénomènes de meute dont je parle dans ce livre l'emportent sur toute autre considération, notamment rationnelle.
Tenter d'être rassembleur rend impopulaire, c'est quand même un drôle de paradoxe.
Non, c'est bien entendu tenter d'être rassembleur en étant rationnel rend impopulaire. Ouais. Puisqu'il y en a tant d'autres qui cherchent à rassembler en convoquant la démagogie, l'irrationalité, les instincts. C'est ça que je vois. C'est le vacarme plutôt que la pédagogie par la raison, par l'explication rationnelle. C'est ça aussi la République, c'est la recherche d'un apaisement par la réponse rationnelle, y compris aux problèmes les plus complexes et les plus difficiles. C'est donc le refus de se laisser emporter par la foule et c'est l'obligation de parler non pas à la foule avec laquelle on dérive, mais au peuple, quitte à un moment donné à prendre le risque de ne pas être compris, mais de tenir dans les moments difficiles en disant ce à quoi l'on croit.
Bernard Cazeneuve, on poursuit cet entretien dans un instant. On va parler politique et aussi un thème que vous venez d'aborder, on va parler d'écologie.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Bernard Cazeneuve, le dernier Premier ministre de François Hollande, qui raconte ses années de ministre de l'Intérieur entre 2014 et 2016 dans « À l'épreuve de la violence au seuil » et auteur aussi d'une contribution dans le dernier numéro de la revue Le Débat. Vous parlez, Bernard Cazeneuve, d'écologie pour dénoncer l'écologie libérale qui serait celle du gouvernement actuel et plaider pour que la transition écologique soit un projet social et républicain. Mais concrètement, je retiens deux marqueurs de votre action comme maire de Cherbourg pendant 11 ans. Vous avez été l'un des premiers maires à bannir l'usage des pesticides dans les jardins publics il y a une quinzaine d'années. Et vous avez cohabité, si je puis dire, avec deux usines nucléaires, La Hague et Flamanville. Et c'est une industrie et une production d'énergie que vous avez toujours défendue. Quel écolo êtes-vous, Bernard Cazeneuve ?
Oui, d'abord j'ai fait plus que cela dans ma vie.
Oui, mais il y a ça.
Puisque vous m'invitez à évoquer ce que j'ai fait comme maire, parce que l'action d'un maire est généralement une bonne manière de mesurer à la fois son orientation et la sincérité de ses engagements. J'ai interdit l'utilisation des pesticides, nous avons engagé une politique massive sur les bâtiments de manière à faire en sorte que les écomatériaux, la diminution de la facture énergétique soit possible pour les ménages les plus défavorisés. Nous avons développé massivement les transports en commun. Vous évoquiez la présence de l'industrie nucléaire, mais je me suis mobilisé très fortement face à Édouard Philippe, qui à l'époque était maire du Havre et souhaitait que cette usine soit implantée sur le territoire de sa ville pour que nous puissions avoir une usine d'éoliennes à Cherbourg. Et nous avons engagé Cherbourg dans la politique des champs éoliens offshore. Et bien entendu, il y avait une activité nucléaire. J'ai toujours pensé que si l'on devait sortir du nucléaire, on ne pourrait pas le faire d'un coup, qu'on ne pourrait le faire qu'à mesure de la montée en puissance des énergies renouvelables non carbonées, et qu'il fallait que nous ayons l'honnêteté de dire cela. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faille maintenir la part du nucléaire dans le mix énergétique. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faille créer les conditions du maintien d'une tout nucléaire en France. Je pense simplement qu'il faut avoir une attitude pragmatique qui consiste à sortir progressivement du nucléaire à mesure que les autres énergies montent en puissance et à mesure aussi qu'on est capable de faire des économies d'énergie, car on ne fera pas l'impasse sur les économies d'énergie.
L'écologie libérale, c'est votre formule dans cet article, c'est celle d'Emmanuel Macron ?
Non, mais l'écologie libérale, c'est une écologie qui tend à laisser penser qu'on aura d'autant plus de facilité à atteindre les objectifs définis par notamment la conférence de Paris, qu'on laissera le marché agir seul. Je ne crois pas ça du tout. Je pense même que si on laisse le marché faire seul, nous allons continuer dans le productivisme chimiquement pur avec les effets dévastateurs qu'on connaît sur la planète. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une intervention de l'État, je pense qu'il faut qu'il y ait un engagement très fort des collectivités locales, et vous faisiez référence tout à l'heure très aimablement à mon activité municipale. J'ai pu mesurer à l'époque que si je n'avais pas eu, par exemple, dans le développement des transports en commun, l'accompagnement de l'État et le retour du versement transport pour accompagner le développement de nouveaux modes de déplacement dans la ville, je n'y serais pas parvenu. Il faut aussi une alliance entre les collectivités locales et l'État, par exemple si l'on veut continuer à désenclaver des territoires qui ont le sentiment de la relégation, dans lesquels on est obligé de prendre la voiture pour se déplacer, et dans lesquels aussi on a supprimé des lignes de chemin de fer à tort, alors qu'on ne pourra pas lutter contre le sentiment de relégation territoriale et diminuer la place de la voiture si on ne permet pas aux citoyens français, même dans les endroits les plus reculés, d'avoir accès au transport ferroviaire. Donc tout cela ne se fait pas par le libéralisme économique, je ne crois pas.
Le libéralisme, dites-vous, on peut l'appeler autrement, Emmanuel Macron, c'est un homme de droite, un président de droite ?
Oui. Vous avez un doute ?
Je vous pose la question.
Mais moi, je n'en ai pas.
Vous n'avez aucun doute ?
Non.
Et vous, Bernard Cazeneuve, vous êtes un homme de gauche ? Qui veut
je vous le confirme.
Utile à la gauche et qui pourrait à nouveau être utile à son pays.
Mais moi, j'ai jamais refusé d'apporter ma contribution et j'ai jamais refusé d'apporter ma contribution quand c'est très difficile. Et donc, bien sûr que je suis toujours prêt à m'engager, à mener des combats. Et je suis pas prêt, en revanche, à le faire dans le concert d'égotisme qui préside à ce qu'est devenu la politique en France. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un narcisse de plus au milieu de la pièce pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, alors qu'on est face à un vide d'idées. Donc je préfère m'intéresser aux idées, d'où l'article du débat, d'où la publication de livres, plutôt que de dire c'est moi, je suis indispensable, je serai candidat, c'est pour ma pomme la prochaine fois.
Voilà, mais ça peut quand même arriver. C'est-à-dire que vous êtes un homme désintéressé pour lui-même, mais pas désintéressé par son pays.
Ah, certainement pas. Certainement pas désintéressé de l'avenir du pays.
Donc, vous êtes concerné d'une certaine façon encore par la vie publique, les échéances.
Mais rassurez-vous, il y a des millions de Français qui sont intéressés par l'avenir de leur pays. Ils ne seront pas tous candidats à l'élection présidentielle. Donc, il faut comprendre que l'on puisse être sincèrement intéressé par la vie de son pays, tout à fait prêt à prendre ses responsabilités, mais pas désireux d'être un de plus dans le concert des égotiques.
Bernard Cazeneuve, À l'épreuve de la violence, Beauvau, avril 2014, décembre 2015, chez Stock. Merci Bernard Cazeneuve.
Merci à vous.